Bienvenue à l'émission À ta santé, l'émission où on parle de santé globale dans une ambiance décontractée et sans prétention. À chaque semaine, notre invité est un expert, un étudiant, un travailleur impliqué à améliorer la santé de ses concitoyens. Certains nous éclairent sur leurs sujets d'intérêt, d'autres nous font part de leurs initiatives à portée sociale. La santé, sans hésitation, ça nous concerne tous. Mais qu'est-ce que la santé globale au juste? La santé globale, ou Global Health, est un terme employé pour parler d'interconnexion en santé, dans une perspective mondiale. Ce sont les individus, les organisations et les idées qui sont réfléchies pour que nous soyons tous en meilleure santé. Alors, global en termes d'individus et d'influences diverses, on en discute avec un invité à chaque semaine. Notre environnement, notre société, nos relations interpersonnelles, notre alimentation aussi, thème qu'on abordera souvent cette saison. Donc, place à la détente et à la réflexion avec notre invité du jour. Bonne écoute.
Bon, ben bonjour. Mon nom, c'est Amira Tahiri. Je suis étudiante deuxième année en médecine. Puis aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi Cynthia, qui est père aidante à la défense des droits au comité Projet Lune, à l'organisme Projet Lune. Et puis, accompagnée de Gabrielle, intervenante à l'hébergement et comité de travail. Donc, merci de nous avoir aujourd'hui avec nous. Je vais juste commencer par vous poser quelques petites questions concernant les travailleurs du sexe, ce milieu vraiment intéressant puis très peu connu. Donc, premièrement, je voulais savoir qu'est-ce qui vous a poussé à devenir intervenante auprès de Projet Lune?
Moi, je suis une ex-travailleuse du sexe, premièrement. Puis, j'ai fait aussi des études dans l'intervention à belle intense. Mais, Projet Lune, quand j'ai connu l'organisme, c'est un petit peu comme un rêve que j'aurais voulu réaliser parce que, de par les services qu'il y a, d'urgence, de travailler du sexe, c'est des choses que, moi, à mon époque, quand je travaillais du sexe, c'est des choses qui m'ont manqué. Puis, j'ai un côté très militant. Donc, je trouvais ça vraiment intéressant là, de pouvoir militer puis en même temps rendre service aux femmes.
De mon côté, j'ai fait un baccalauréat en criminologie, puis j'avais fait mon stage là, en détention avec des hommes. Puis quand je suis sortie en fait, de ce milieu-là, bien, j'avais plus envie de travailler avec des femmes. Puis bien, c'est ça, là, j'ai connu Projet Lune et tout ça, puis j'avais passé dans le fond, les entreprises d'embauche et tout ça pour travailler là. Puis il y avait aussi un côté féministe là, qui m'intéressait vraiment beaucoup à Lune. Donc, c'est ça qui m'a motivée aussi à travailler pour Lune.
Super. Puis, vous venez un peu de le dire, mais quelle formation avez-vous suivie pour devenir intervenante? Au fond, c'est quoi le processus? C'est qui peut appliquer au Projet Lune?
Dans le fond, c'est ça, là, j'ai un bac en chrono, j'ai fait des certificats aussi. Mais dans le fond, à Lune, on a aussi beaucoup de formations, là, que quand on est toujours continuellement formé en fait, là, sur différents sujets pour les clientèles avec lesquelles on travaille. Fait que ça nous aide beaucoup dans la vie de tous les jours aussi.
On accepte, comme employé, c'est sûr que les intervenantes, ils ont tous un diplôme en lien avec le milieu, donc on a l'itinérance, on a la santé en la toxicomanie, on a la pauvreté, les femmes, donc c'est on engage seulement des femmes ou des personnes qui se sentent femmes. Alors, c'est des personnes qui veulent aider, mais on a le côté par aidante, parce que c'est un organisme par et pour, où c'est toutes des filles expertes de vécu qui vont venir en diade avec les intervenants scolarisés.
OK. Puis, est-ce que vous voulez un peu plus expliquer l'organisme Projet Lune? C'est quoi, en fait, pour les gens qui ne savent pas? C'est quoi les services que vous offrez? Qu'est-ce qui se passe?
T'as vu nos clins d'œil. Nous, on offre de base, c'est un comité de travail qui travaille avec 5 axes. Soit on a un journal qu'on offre dans plusieurs points de service qui est fait par les femmes du comité de travail. On fait des trousses de soins de base pour les femmes qui sont itinérantes. On a l'inclusion socioprofessionnelle, ça veut dire les femmes qui sortent du comité de travail ont une rémunération pour 10 heures de travail par mois. Ensuite de ça,
il y a aussi le travail de rue. On a trois travailleuses de rue là, qui se promènent dans Saint-Roch là, pour faire avec des suivis et tout ça. Puis évidemment, il y a l'hébergement, qui est un drop-in, donc un hébergement d'urgence là, au seuil d'acceptation. Ça veut dire qu'on accepte n'importe quelle femme. Bon, en fait, toutes les personnes qui s'identifient comme des femmes dans n'importe quel état. Fait, des fois, ils peuvent être en consommation, mais nous, on va les prendre quand même. C'est souvent aussi des femmes, des fois, qui sont barrées de d'autres milieux, qui ne peuvent pas aller dans d'autres organismes parce que il y a eu des fois de la violence ou peu importe là, les raisons, mais nous, on accepte vraiment les femmes comme elles arrivent, puis c'est ça, au seuil d'acceptation. Donc, en gros, c'est ça. L'hébergement est ouvert depuis 2014, puis le projet, en fait, a commencé en 2007. Là. Ça fait déjà un certain temps quand même qu'on est ouvert, là, qu'on est projet de nous.
Super, c'est vraiment une belle mission, ouais. Tout ça. Puis est-ce que vous êtes à Québec ou...
Oui, c'est sûr, on est à Québec, là. On est à Saint-Roch. On est le nouvel hébergement, dans le fond, qui est ouvert le 18 décembre, là, situé au 319 Prince-Édouard. Puis le premier hébergement, en fait, qui est encore ouvert, là, il est au 65 Notre-Dame-des-Anges. Fait que les deux hébergements sont dans le quartier de Saint-Roch à Québec.
Super. Pour vrai, c'est vraiment génial que des organismes existent comme ça. C'est vraiment inspirant. Donc, est-ce que vous pouvez me décrire une journée type de votre emploi auprès des travailleurs du sexe? Qu'est-ce que vous faites durant la journée, le soir? C'est quoi votre horaire? Qu'est-ce que vous faites avec eux, au fond?
Je peux parler un peu du côté peut-être hébergement. Là. En fait, l'hébergement, c'est ouvert de 18h à midi le lendemain. Moi, quand je travaille à l'hébergement, je fais souvent des soirs, là, ces temps-ci, mais j'ai déjà fait beaucoup de nuits et des matins aussi. Fait que dans l'ordre d'habitude, les femmes arrivent, il y en a beaucoup qui arrivent à 18h directement à l'hébergement. Souvent, quand ils arrivent, ils veulent souper, ils veulent prendre leur douche, puis nous, on peut aussi faire leur lavage durant la nuit. Fait que souvent, ça tourne dans la soirée autour de ça. Souvent, il y a des femmes aussi qui arrivent en consommation, fait que c'est de gérer un petit peu des crises, des choses comme ça. Puis la nuit, des fois, parfois, c'est plus tranquille, d'autres fois, ça l'est pas du tout. Ça dépend vraiment des fois. Puis le matin, en fait, c'est plus un peu le petit rush du matin où tout le monde va être parti pour midi. Là, fait que tout le monde se prépare, tout le monde déjeune, c'est un peu fébrile. Puis ensuite, entre midi et 18h, ben, on est fermé, là, mais l'hébergement. Mais bien, évidemment, nos bureaux sont ouverts. Là, fait que c'est sûr qu'il se passe d'autres choses du côté du bureau. Là, je peux laisser vous dire peut-être plus en parler.
J'aimerais ajouter qu'à l'hébergement, on travaille seulement avec des travailleurs du sexe. Petite portion de notre clientèle, mais c'est des femmes là, vraiment de tous les horizons. Moi, c'est pas très compliqué ce que je fais. Je suis souvent sur Internet à faire des recherches pour faire des présentations ou pour être vraiment au bout du jour là, sur toutes les lois puis tout ce qui se fait dans le monde aussi au niveau du travail du sexe puis le développement, étant donné qu'on est un organisme qui milite pour la décriminalisation. Puis, on communique beaucoup avec d'autres organismes, comme là, présentement, la représentation, l'évocation de l'organisme. Donc, on fait beaucoup de ça dans les écoles, en partenariat avec d'autres organismes, dans les fêtes de quartier.
Super. Puis, je suis curieuse de savoir, est-ce que les subventions, comment vous l'obtenez, comme pour l'hébergement, pour la nourriture, est-ce que c'est des dons ou... Vous êtes subventionné par le gouvernement ou comment vous obtenez-vous?
On a un peu de tout. Là. Il y a des subventions gouvernementales. On a aussi beaucoup de dons de particuliers, là, vraiment beaucoup. Sinon, on a la ville aussi qui nous aide beaucoup. On a la condition féminine aussi qui nous donne l'argent. Tu sais, ça dépend vraiment des années, mais tu sais, on est toujours en recherche en fait, de subventions parce qu'on n'a jamais rien de vraiment... défini, là, qui permet qu'on puisse tout le temps être ouvert. C'est sûr que notre directrice, là, puis une partie de l'équipe, là, travaille beaucoup, beaucoup sur le fait de juste trouver de la subvention juste pour qu'on puisse rester ouvert comme tout le temps. Là. C'est une grosse partie du travail aussi de nous.
Pour la prochaine question, c'est pouvez-vous décrire un peu la population en général des travailleurs du sexe auprès desquels vous intervenez, par exemple, l'âge moyen, si c'est des filles, des garçons, communauté LGBTQ, leur background, niveau socio-économique de leur famille, leur éducation, un peu, ça ressemble à quoi?
Bien, comme notre organisme travaille, tu sais, c'est un refuge d'urgence, c'est-à-dire que les gens qui viennent, bon, sont souvent en situation de pauvreté, avec toutes les conséquences que ça peut avoir, la toxicomanie, la violence conjugale ou des troubles de santé mentale très exacerbés. Bon, la population des travailleurs du sexe qu'on accueille, je dirais que c'est autour de 35 ans. C'est toujours des femmes trans queer parce qu'on accepte seulement les femmes. C'est ça, avec beaucoup de... Tu sais, c'est pas des gens... Il y en a qui sont éduqués, mais la majorité, bon, va avoir un secondaire 5 ou moins, je pense. Vont fréquenter la rue, vont faire du travail du sexe de rue plutôt que d'être escorte ou masseuse ou danseuse. Donc, en général, ça ressemble un petit peu à ça. Il y a beaucoup de la communauté LGBTQ, qui viennent à notre organisme parce qu'on est inclusif. Donc, je pense que c'est un attrait qu'il y a pour notre organisme. Mm.
Puis, je suis curieuse de savoir, par exemple, comment vous faites pour que cette population-là, elle sait que vous existez. Par exemple, moi, avant que je m'implique dans mon comité qui est Spot U Laval, je suis responsable volet santé des femmes, je ne savais pas que vous existiez. Comme, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui savent que vous existez. Comment vous faites pour en faire la promotion auprès de cette clientèle-là? Est-ce que c'est bouche à oreille?
Pour les personnes qui nous fréquentent ou avec les suivis, c'est beaucoup par le bouche à oreille parce que les gens qui fréquentent la ville, c'est un milieu quand même petit parce que la ville est petite, donc ils se connaissent beaucoup. Les intervenants aussi avec qui on fait des partenariats ici en ville, ben, ils nous connaissent aussi, je veux pas, parce qu'on est sur les mêmes tables de concertation ou c'est petit. Donc, c'est sûr qu'on se connaît, on travaille dans les mêmes objectifs. Il y a aussi les policiers avec qui on a un très bon partenariat qui amènent les femmes ou qui vont dire ils rencontrent une femme, elle n'a pas de place, ben bon, on peut venir. Donc, on a une très bonne réputation maintenant dans la ville en général. Donc, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. On ne fait pas tellement de publicité, il n'y a pas d'affiche lune, venez nous voir. On suit beaucoup sur les gens, puis ça marche. On est plein pratiquement chaque soir. Là.
Vous êtes bien connus, là. puis j'avais une autre question, c'est est-ce que les travailleurs du sexe peuvent être victimes d'infractions criminelles, par exemple proxénétisme, voie de fait, vol, méfait? Puis si oui, est-ce qu'il ou elle accepte de porter plainte à la police, par exemple, s'ils se sont fait violenter ou quoi que ce soit, est-ce qu'ils vont accepter de porter plainte à la police, même si ou ils vont avoir peur, par exemple, des conséquences qui peuvent leur arriver, même si c'est eux qui sont victimes de ça?
Il y a comme deux questions dans cette question-là. D'abord, comme nous, on croit à la décriminalisation, mais on pense que les femmes, on va parler de femmes parce qu'on accueille des femmes, les femmes font le métier qui est travail du sexe, qui est travailleuse du sexe dans l'industrie. Donc, elles peuvent être victimes comme n'importe quelle autre femme de voie de fait, d'agression sexuelle. On pense pas qu'il y a des infractions qui sont spécifiques au travail du sexe, mais qui sont comme partout ailleurs, spécifiques à l'agressivité, à la violence au contrôle des délinquants. On considère que les femmes devraient être capables de pouvoir se regrouper ensemble. Donc, quand on parle de proxénétisme, ce serait le terme utilisé par la loi, mais ce ne sera pas une femme ou un homme qui prend l'ascendant sur une autre personne pour obtenir de l'argent. Ça va être plusieurs personnes qui aimeraient se regrouper ensemble pour avoir plus de protection, plus de contrôle sur leur travail. Donc, nous, c'est ça qu'on entend par proxénétisme. C'est sûr qu'on constate qu'il y a aussi de l'exploitation sexuelle, qu'il y a de la traite de personnes, mais ça ne fait pas partie du travail du sexe, parce qu'on est dans une catégorie, justement, là, d'infraction. Tandis que le travail du sexe, c'est entre deux personnes qu'on s'entend, qu'il y a un échange de services. Ce qu'on pense, c'est que les hommes sont pas portés nécessairement à aller voir les policiers parce qu'il y a beaucoup de stigmatisation, beaucoup de préjugés Donc, tu l'as mérité, t'as payé pour vendre ton corps. Fait que c'est sûr que s'il t'a battu, ça fait partie des conséquences que tu devais avoir à vivre. Ça, c'est une mentalité que la criminalisation du travail du sexe emmène. En les rendant coupables des sévices qu'elles vont subir. Donc, il y a une étude qui est sortie qui dit qu'il y a 30% des femmes qui n'iraient pas porter plainte jamais. Mais nous, on pense que ce serait vraiment plus que ça. C'est qu'ils iraient porter une plainte et qu'ils se rendraient jusqu'au bout. Parce qu'au départ, les policiers ne sont pas très ouverts là, à ces perspectives-là.
Mm-hmm. C'est aussi parce que cette population n'est pas tellement au courant non plus des lois, souvent. Fait que ça fait que les femmes qui font le travail du sexe, souvent, ils pensent que vendre leur service, des fois, c'est même pas légal. Tandis qu'en fait, vendre le service est légal, c'est l'achat qui n'est pas légal. Fait que c'est les clients qui peuvent être criminalisés et non la travailleuse du sexe en tant que telle. Mais c'est que les lois sont tellement faites, en fait, pour... Elle a le droit de vendre un service, mais tout ce qui est autour devient presque illégal. Fait que de mettre ses annonces dans le journal, d'avoir un site, d'avoir... Tout ça, ça devient illégal ou d'être proche d'un parc, de faire... Fait que ça fait que tout ce qui a en lien avec son travail presque autour de tout ça, ça devient pas légal. Fait que ça fait que c'est compliqué pour elle des fois de comprendre comment ça fonctionne, puis jusqu'où elle peut aller, puis jusqu'où elle peut porter plainte aussi quand il se passe des sévices ou des choses comme ça.
Mm-hmm. Puis j'imagine aussi que quand ils viennent chez vous, est-ce que vous les expliquez que justement ils ont le droit de porter plainte, puis que c'est justement eux qui sont victimes de cette situation et que c'est pas illégal qu'est-ce qu'elle a fait, mais c'est justement le client qui a payé qui est illégal. Est-ce que vous l'expliquez puis vous l'encouragez ou c'est plus... c'est quoi votre intervention face à ça?
Ben nous, en fait, on va se situer en fait où la femme se situe dans le sens où on va aller avec ce qu'elle désire faire. T'sais, on va pas l'inciter à porter plainte si elle ne veut pas porter plainte parce que c'est elle en fait qui décide, tu sais. Si elle veut pas porter plainte, non. Si elle veut porter plainte, on peut l'accompagner dans ce processus-là aussi, il n'y a pas de problème. Fait que, on va la prendre où elle va être rendue au fond de tout ça parce qu'il y a beaucoup de femmes qui font ce travail-là aussi volontairement. Puis, tu sais, je pense que ces femmes-là sont souvent oubliées. Là, fait que je pense aussi qu'il faut comprendre qu'il y en a qui le font parce qu'ils désirent faire ce métier-là, tout simplement.
Mm-hmm. Et c'est un métier comme un autre, tu sais, que... Toi, tu peux travailler chez McDonald's, elle va faire le travail du sexe. C'est un métier souvent qui va être alimentaire pour la plupart.
Mm-hmm. Puis, comment décrirez-vous justement la relation entre les travailleurs du sexe puis le système de santé? C'est un peu rapport comme quand je disais avec la police, mais là, c'est avec le système de santé puis consulter à l'urgence, test de dépistage. Comment elle fait pour prendre soin d'elle-même? Comme c'est important, comme n'importe qui d'autre devrait consulter pour des rendez-vous médicaux.
Ben, c'est sûr qu'ils ne seront pas portés à nommer qu'ils font ce métier-là parce que c'est plate à dire, mais le milieu médical, il y a vraiment beaucoup de préjugés et de mauvaises perceptions. C'est un manque de connaissances, c'est clair. Mais ils vont hésiter à dire qu'elles sont travailleuses du sexe parce que ça va venir avec toute une série de questions inutiles, souvent pour le cas où elle va être là. Bon, on va faire un dépistage. As-tu des DSS? Tu consommes-tu? Alors qu'il y a plein de femmes qui font travailler du sexe qui ne consomment pas. Donc, en partant, elle va comme être à moins 10 à l'échelle humaine. Donc, les services ne sont peut-être pas aussi équitables. Ouais, équitables. Donc, c'est des personnes qui sont hésitantes la plupart du temps, surtout les femmes avec qui nous on travaille, qui sont beaucoup dans la toxicomanie, des troubles de santé mentale assez sévères. Donc, c'est des gens qui ont vraiment peur d'être hospitalisés, de recevoir des traitements qui ne sont pas adéquats, ou est-ce qu'ils ne sont pas bien reçus comme être humain, mais plutôt comme un problème, comme un diagnostic.
Mm-hmm. Puis, est-ce que vous, dans votre organisme, justement, vous prévoyez avoir ou vous avez un professionnel, justement, de la santé qui pourrait les consulter sans... qui est formé puis qui va pas, justement, porter ses préjugés puis qui va répondre à leurs besoins comme il faut?
Bon, de personnes qui travaillent là, dans le domaine de la santé à l'une, mais on a vraiment des bons partenaires là, comme la SAPSA ou CIPOC, la CLINICIPOC. On peut vraiment les référer là, souvent à ces endroits-là en qui ils ont confiance en ces endroits-là parce qu'ils les connaissent, Ils voient souvent les intervenants, ils sont dans la rue souvent. Fait que, c'est, je pense que c'est un lien de confiance qui sont développés plus avec, avec ces personnes-là, de SPOT ou de la SAPSA, justement.
Super. Puis, quelles sont les mesures prises pour protéger les travailleurs du sexe contre les maladies transmissibles sexuellement? Est-ce que... quelles sont les mesures prises par elles ou... Juste, c'est ça.
Ben, je pense qu'on fait beaucoup de prévention. Là. Je pense qu'on est beaucoup dans la réduction des méfaits, dans le sens où, tu sais, à l'une aussi, tu veux avoir des condoms, on peut t'en donner en quantité. Il n'y a aucun problème là-dessus. Pour ce qui est de la consommation aussi, c'est la même chose. On distribue beaucoup de matériel de consommation. Fait que, tu sais, on pense qu'en fait, c'est la personne qui décide là, où qu'elle est rendue dans sa vie. Donc, nous, on veut juste réduire en fait les méfaits que ça peut avoir sur sa vie, mettons, de consommer. Puis, si elle fait le travail du sexe, ben c'est ça, on peut justement lui donner des condoms pour justement qu'elle puisse faire son métier, tu sais, en ayant une paix d'esprit puis en faisant sécuritairement là, par rapport à ça.
Et c'est la santé publique aussi qui donne gratuitement là, du matériel aux organismes qui en ont besoin. Donc, on soit l'exigue dentaire, des condoms féminins, vraiment beaucoup de diversité là, dans le choix de. Des protections. Puis les femmes, je pense que celles qui sont populaires utilisent vraiment bien ces services-là.
Mmh. Mmh.
Ils sont très conscientisés à se protéger, là, mmh. à protéger leurs clients aussi, parce que c'est un petit travail, leur corps, il faut qu'ils soient en santé.
Puis, quelles sont les principales difficultés sociales rencontrées chez ces travailleuses? Côté familial, amical, amoureuse, côté amoureux. Comme est-ce que, justement, est-ce que c'est plus difficile ou comment ça se passe côté toute la sphère sociale? Je sais qu'il y en a que, justement, ils font ça par choix, mais est-ce que même si quand ils le font par choix, ils réussissent quand même à garder leur vie sociale, de leur travail, comme une barrière? Chose qui est difficile dans tous les métiers, mais particulièrement dans ça où est-ce que tu es intime avec la personne?
Ben moi, j'ai beaucoup de collègues de travail, des intervenantes par exemple, qui pratiquent activement, qui font activement ce travail-là. Puis la plupart, en fait, y en a plusieurs en fait, qui ont des conjoints, qui sont en couple, que leurs conjoints, ils savent qu'ils font ce travail-là, puis ils sont bien à l'aise avec ça. Leur famille le sait aussi souvent. Souvent, ce qu'ils me disent, c'est qu'au début, ça a été peut-être dur un peu de la part de la famille d'apprendre ça, mais qu'ensuite, ça c'est comme... placé parce que ça reste la même personne au bout de la ligne. Mais de ce que je sais, en tout cas pour celles avec qui je travaille, là, c'est ce qu'elles m'ont rapporté.
Mais il y a aussi l'autre côté, puis c'est pour ça qu'on milite beaucoup, qui est, je pense, pour la majorité des femmes, peu importe que ce soit escorte ou travailleuse du sexe de rue ou danseuse ou masseuse, il y a beaucoup de préjugés, justement, en partie à cause de la criminalisation, mais aussi à cause des préjugés. C'est des hommes et des femmes envers les travailleurs du sexe. Ils les perçoivent plus comme négativement, comme des rejets de la société ou des victimes qui font abuser d'elles. Donc, si tu es une mère qui est travailleuse du sexe, tu risques d'avoir la DPJ, le plus fort pourcentage qu'une mère qui se retrouve. Si tu es avec tes amis, ben si tu dis que tu es une travailleuse du sexe, c'est sûr que leur perception va changer, à moins que tes amis soient super qui vont te considérer comme moindre. Donc, c'est des personnes qui ne peuvent pas beaucoup, pratiquement jamais parler. Tu sais, quand on arrive le soir de travailler, on a envie de raconter, hey, ça a été dur cette journée-là. On a envie de s'exprimer ou de dire nos bons coups. C'est très difficile pour ces femmes-là de s'exprimer parce que c'est mal vu, donc mal pris par les gens, donc ils n'ont pas envie d'être jugés en plus du fardeau de travail, parce que c'est pas toujours plaisant, n'importe où on travaille, on n'a pas toujours une belle journée. Aussi, avec les conjoints, souvent c'est plus, il y a de la jalousie, il y a de l'incompréhension de ce que c'est un métier seulement, donc il n'y a pas de plaisir, ou c'est pas une relation sexuelle comme quand tu es dans un couple. Donc, il y a beaucoup d'incompréhension. On se rend compte qu'il y a des hommes qui vont tirer profit de ça une fois qu'ils vont le savoir. On dit, de toute façon, tu le fais, que tu vas travailler pour moi. des situations comme ça qui arrivent. Donc, c'est pour ça qu'on milite beaucoup pour que ce soit le travail du sexe, c'est un travail à part entière, qui est fait par des hommes et des femmes qui ont choisi de faire ce métier-là pour X raisons, puis qui méritent d'être respectés, d'avoir accès aux normes du travail, de pouvoir en parler dans la société, qui ne sont pas rejetés.
Non, c'est vraiment triste d'entendre ça, mais je pense justement qu'on a beaucoup de travail côté sensibilisation, puis côté justement d'apprendre tous ces côtés-là de ces travailleurs-là. Il y a beaucoup de travail à faire de ce côté-là.
Parce que peu peu pas, s'il y a des femmes, il y a des hommes qui vendent des services sexuels, c'est parce qu'il y a une demande. Donc, les gens qui ont la demande, ils ne diront pas non plus, mais ils ne seront jamais aussi stigmatisés que les travailleuses elles-mêmes, alors qu'elles sont là pour répondre à un besoin.
Exactement, oui. Ça, c'est vraiment un bon point. Puis finalement, pour la dernière petite question que j'ai à vous poser, c'est sur le plan légal, c'est quoi votre opinion concernant la loi C-36 qui interdit de payer ou bénéficier de la vente d'un acte sexuel? On en a glissé un mot tantôt, mais je voulais plus approfondir ça, votre opinion concernant ça.
Mais cette loi-là, en fait, nous, on se positionne vraiment contre la loi C-36. On est pour la décriminalisation du travail du sexe. On se positionne contre, en fait, parce qu'on considère que ça met les femmes plus en danger, les femmes travailleuses du sexe beaucoup plus en danger. Autant par le fait qu'elles sont obligées de se cacher, sont obligées de s'isoler pour faire ce travail-là, parce qu'il ne faudrait surtout pas que ça soit trop vu, il ne faudrait surtout pas que les gens voient qu'elle fait ce travail-là, parce que ça met... Elle ne peut pas avoir un chauffeur, elle ne peut pas avoir quelqu'un qui la protège, parce que cette personne-là, si elle est rémunérée, elle va être criminalisée. Fait que ça, c'est plein de côtés, en fait, qui fait qu'elle pratique son travail beaucoup plus à risque à cause de ça. Fait que nous, on se positionne contre, là. On pense que cette loi-là est nocive, en fait, pour ces femmes-là.
On pense que dans le code criminel, il y a déjà tous les articles de loi pour protéger les êtres humains. Donc, pas besoin d'en ajouter spécifiquement pour le travail du sexe. Parce que, au fond, probablement que ces lois-là ont été faites dans le temps où est-ce qu'on était très chrétien, très croyant. Donc, c'était plus une question de moralité, mais ça existait quand même, mais c'était plus le côté immoral du sexe qu'on n'aimait pas plutôt que la femme. Parce qu'on pensait que c'était des mauvaises personnes, alors que c'est des gens souvent qui ont juste moins de chance ou... Donc, c'est pour ça qu'à l'époque, peut-être que ça avait plus d'intérêt de faire ça, j'en ai aucune idée, mais aujourd'hui, on considère qu'il n'y a vraiment aucune raison que ce soit réglementé d'aucune façon, ni même par la légalisation, qui pourrait créer encore plus de perte de contact avec les services puis de violence.
Ça le dit, tu sais, le travail du sexe, c'est un travail. Quand c'est pas un travail, c'est là qu'on parle d'exploitation. Ça veut dire quand il y a un consentement, c'est là qu'on parle d'exploitation. Fait que, tu sais, c'est dans le fond, c'est même pas de débattre si on est pour ou contre, c'est juste de laisser ces femmes-là pratiquer le métier qu'elles désirent en sécurité, tu sais. Fait que c'est juste une question de sécurité puis de droit de la personne, là, rendu là, c'est même plus... Fait que c'est pour ça qu'on trouve que ça fait pas de sens. Puis c'est aussi... moi, je considère vraiment que c'est quelque chose qui est comme anti-féministe dans le sens où c'est des femmes qui sont capables de faire, de prendre leurs décisions. Puis si ce travail-là, ils sont à l'aise de le faire, bien, elles peuvent le faire, puis elles vont être en sécurité. Tandis que dire qu'on va mettre des lois pour faire qu'en fait, ils peuvent pas faire ce travail-là, bien, c'est comme leur dire, bien, vous n'êtes pas capables de prendre vos décisions. Vous n'êtes pas capables de faire ça. Nous, on va décider pour vous. Nous, on va faire des lois pour vous protéger. Mais tu sais, c'est pas les écouter dans ce temps-là, nous.
C'est le privé de droits fondamentaux, donc on dit la liberté de choisir.
Oui.
C'est très vrai, parce qu'au final, justement, c'est un travail comme un autre, puis une femme, c'est quelque chose de beau, c'est fort, puis c'est intelligent, puis ça peut prendre ses propres décisions.
Il y a beaucoup de femmes qui le disent, là, qui le font, là, mes collègues, là, qui disent, on vend pas un corps, on vend pas notre corps, c'est un service qu'on vend, c'est du temps qu'on vend. C'est ça, puis dans quel métier, en fait, on fait pas ça, on vend un service, on vend du temps, en effet. Peu importe le métier, on peut prendre plein d'exemples. Là. C'est ça que c'est tous les métiers, c'est ça. Là. Ça revient tout au même, finalement.
Exactement. Ben c'est vraiment beau de vous voir, les filles. Pour vrai, je suis contente d'avoir découvert Projet Lune dans le cadre de mon implication à l'université. C'est vraiment beau à voir comment vous aidez justement ces personnes-là à cheminer puis à défendre leurs droits puis leur apprécier à s'accepter puis à sensibiliser les gens à accepter ces personnes-là. Donc,
merci beaucoup pour cette belle opportunité aussi. Hein.
Merci encore de vous avoir à la radio. Merci.
Cette émission est une initiative du Comité SPOT de l'Université Laval affilié à la Clinique SPOT. En début d'émission, on vous parlait de ce qu'était la santé globale. Ça peut être assez complexe. Ce concept vient de plusieurs mouvements étant arrivés au constat que l'enjeu fondamental de notre société contemporaine, c'est l'inégalité entre les vies humaines. Le comité SPOT a pour mission de sensibiliser et mobiliser la communauté étudiante aux déterminants sociaux de la santé à travers diverses activités. Merci à l'Association médicale canadienne pour son appui financier au projet. À la prochaine!